Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Éric Dupond-Moretti, bonjour.
Bonjour, monsieur Bourdin.
Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le 13 novembre 2015, des terroristes, en 3 heures, tuent 130 personnes, 413 personnes sont blessées, dont 99 grièvement. Près de 6 ans après, 20 terroristes présumés, dont le franco-marocain Salah Abdeslam, sont renvoyés à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris est jugé pour ces attentats. Abdeslam est le seul membre du commando encore en vie. 14 accusés sont présents, 11 dans le box des accusés, 3 comparaissent libres et 6 autres, dont 5 présumés morts, seront jugés par défaut. Ce jugement, ce procès va dururer jusqu'au 25 mai 2022. Au moins 140 journées d'audience qui commenceront toutes à 12h30. 5 magistrats professionnels, 3 avocats généraux pour porter l'accusation, 330 avocats, défense et partie civile, 1800 personnes d'une vingtaine de nationalités se sont constituées partie civile. Le dossier d'instruction compte 542 tomes, 1 million de pages, 141 médias sont accrédités, 8 caméras pilotées par enregistrement historique pour l'enregistrement historique de ce procès. Verdict donc fin mai. Cour d'appel de Paris, le vieux palais de justice, dans l'île de la Cité, salle d'audience construite dans la salle des pas perdus, 750 mètres carrés, 550 personnes accueillies, coût 7,5 millions d'euros. Le procès sera donc filmé. Éric Dupond-Moretti, ce sont les matériaux de l'histoire.
Le 13 novembre 2015, la France tout entière a été plongée dans l'horreur. Il y a avant cette date, il y a après cette date. Ces événements sont entrés par effraction dans notre histoire et bien sûr notre mémoire collective. Il faut que la justice soit au rendez-vous de ces événements. De deux façons. Il faut d'abord qu'elle soit rendue conformément aux règles qui sont les nôtres depuis des siècles. Le monde entier nous regarde. Il faut aussi que nous soyons au rendez-vous logistique. Vous avez évoqué un certain nombre de chiffres. Le dossier, vous l'avez rappelé, il est hors norme.
1 million de pages.
53 mètres linéaires de dossier, que l'on s'imagine ce que ça représente. Et je veux rendre hommage ici à tous ceux qui ont contribué à ce que le procès s'ouvre et se déroule dans les meilleures conditions possibles. Je pense au premier président de la Cour d'appel de Paris, Jean-Michel Ayat, à toute son équipe. Par exemple, que l'on a embauché des gilets roses qui porteront un gilet rose pour accueillir le public, pour accueillir les parties civiles, pour accueillir le millier de journalistes accrédités, les avocats. Je veux rendre hommage à Jean-Michel Ayat, je veux rendre hommage à toute l'équipe qui a travaillé autour de lui, je veux rendre hommage à Jean-François Ricard, le procureur national antiterroriste, qui a beaucoup travaillé aussi, beaucoup investi dans cette salle. Il était impérieux que le ministère de la Justice soit au rendez-vous de ce procès. Il l'a été, ça n'est pas 7 millions, c'est 10 millions qui ont...
10 millions.
10 millions, oui. Avec des moyens vidéo, techniques, absolument exceptionnels.
Que doit montrer ce procès? La force du droit, Éric Dupond-Moretti? La force du droit, le droit ultime réponse au terrorisme dans une démocratie?
Oui. Ce procès, il doit rappeler nos règles. Il doit rappeler que, contrairement à ce que disent parfois certains dans les manifestations du samedi, nous ne sommes pas en dictature. Que chez les islamistes, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas d'institution judiciaire, il n'y a pas de règles. Que ce qui fait la différence entre la civilisation et la barbarie, c'est la règle de droit.
La règle de droit distingue la civilisation de la barbarie.
Bien sûr.
C'est ce que ce procès doit dire aussi, doit montrer.
Ce procès, voyez, il est d'abord important pour ça, bien sûr. Il est important pour les victimes qui vont exprimer leur souffrance. Il est important pour la pédagogie judiciaire. Il y a peut-être des gens qui vont regarder ce procès et qui ont des velléités islamistes. Il est important également pour que on se nourrisse du procès. Vous voyez, Monsieur Bourdin, l'affaire Paty, elle a été examinée à la loupe sur le terrain factuel. Ce travail, je l'ai fait avec les magistrats qui m'entourent, avec le procureur national antiterroriste, et on s'est dit, mais comment on aurait pu intervenir plus tôt ? Et de cette expérience mortifère, insupportable, on a tiré un certain nombre de dispositions législatives pour ne plus que ça se reproduise. C'est aussi ça qui est important dans un procès.
Ces vertus pédagogiques.
Oui, bien sûr.
Le terrorisme qui doit être jugé démocratiquement, Éric Dupond-Moretti.
Oui, comme le nazisme a été jugé dans le procès Nuremberg. Démocratiquement, avec des règles de droit. Ceux qui ne veulent plus de la règle de droit, ce sont les islamistes. Et qu'on nous entende bien, et tous les démocrates le savent, si on les juge sans règle de droit, alors ils ont gagné. Et quand certains politiques se reconnaîtront, et vos auditeurs les reconnaîtront, utilisent à des fins populistes les attentats terroristes, alors ils font gagner les terroristes. Et ce combat, il n'est pas perdu parce que les démocrates savent cela. Et la démocratie, c'est un combat permanent, quotidien. C'est presque des petits gestes du quotidien. Moi, quand j'entends certains manifester en évoquant l'étoile jaune, en évoquant le Quatrième Reich, en évoquant la dictature, alors que pour le pass sanitaire, on en est au 10e débat parlementaire, à un contrôle permanent du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, je me dis, on ne peut pas galvauder les mots.
Éric Dupond-Moretti, parlons de la défense dans ce procès. Avocat en exercice, vous auriez défendu Abdeslam, évidemment, s'il vous l'avait demandé. Vous l'auriez défendu, évidemment.
Je ne savais pas.
Vous dites des causes sont indéfendables,
oui.
Mais les hommes sont défendables.
Je pense qu'on ne peut pas envisager un procès comme celui-là, après tout ce que l'on vient de dire.
Avec tout ce qu'on vient de dire, sans offrir à la défense.
Sans que les accusés soient défendus. Et d'ailleurs, les avocats de la partie civile ont partagé une partie des indemnités qui sont les leurs, avec les avocats de la défense. C'est-à-dire qu'ils disent à quel point on ne peut pas concevoir un procès sans défense. Il y a la défense, elle est indispensable. Il n'y a pas que la défense. Il y a aussi, bien sûr, l'expression de la souffrance des parties civiles par leurs avocats. Il y a aussi les magistrats du parquet national antiterroriste qui vont représenter toute la société, sans oublier, pardon, je veux également leur rendre hommage, oui. Parce qu'ils partent pour un marathon judiciaire, vous l'avez traduit en jours, je vais le traduire en mois, c'est 9 mois, c'est le plus long procès de notre histoire. Donc je pense aussi aux magistrats, je pense bien sûr aux greffiers qui sont indispensables.
Et moi je pense aussi aux surveillants pénitentiaires.
Mais évidemment.
Qui ont fait en sorte qu'Abdeslam soit là le jour de son procès.
Bien sûr. Et qu'aurait-on dit s'il n'avait pas été présent. Bien sûr, il faut leur rendre hommage. C'est la troisième force de sécurité dans ce pays. Ils sont souvent méconnus. Ils ne sont pas considérés assez. Et ils ont un rôle absolument important dans la barque judiciaire et dans la maison de justice.
Éric Dupond-Moretti, plus les faits sont graves, plus la défense doit être sans concession.
La défense, c'est la défense. On ne transige pas avec ça. Elle est libre. L'avocat est le porte-voix de celui qu'il défend.
Mais Abdeslam pourrait utiliser ce procès, se servir de ce procès, se servir de la publicité de ce procès pour montrer au monde que sa foi est plus forte que la justice. Une image de propagande, il pourrait utiliser.
Quand retiendrons-nous de cela, si ce que vous dites est une réalité ? Vous savez, moi, je ne veux pas rentrer dans les arcanes de ce procès qui va se dérouler. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis infiniment soucieux, je pense avoir démontré, de l'indépendance des magistrats. Ce procès ne m'appartient pas. Je vais évidemment le regarder comme tout un chacun. Moi, mon rôle, c'était de mettre en place logistiquement les meilleures conditions possibles. Je suis très attaché à cela. Laissons le procès se dérouler. Il dira ce qu'il a envie de dire et nous en penserons, M. Bourdin, ce que nous avons envie d'en penser.
Éric Dupond-Moretti, parlons des victimes. Vous avez dit, lorsque vous défendiez Abdelkader Merah, le frère de Mohamed Merah, je vous cite, « un procès ne permet pas aux victimes de faire leur deuil à l'audience ».
C'est ce que vient d'exprimer récemment, j'ai vu ça dans la presse avec beaucoup de dignité, le papa d'un gamin tué au Bataclan.
Ouais.
Et il dit d'ailleurs, on sait qu'on n'aura pas toutes les réponses, mais en même temps on a soif de justice.
Aucun procès, aucun verdict n'efface la douleur des victimes, des familles, des victimes.
Ça se saurait évidemment, ça se saurait.
Est-ce que les familles des victimes ont tous les droits ?
Les familles des victimes ont des droits codifiés dans nos règles. Et moi, je n'ai aucune crainte de ce point de vue-là. Je vais vous dire pourquoi je n'ai aucune crainte. Parce que, d'abord, j'ai entendu les victimes s'exprimer dès à présent. Je les trouve d'une incroyable dignité. Il n'y a pas eu de dérapage. Il n'y a pas eu de dérapage. D'ailleurs, il n'y a pas eu de dérapage non plus de la classe politique à propos de ces attentats. Ça, c'est arrivé bien après. Peut-être que la campagne qui s'ouvre est incitative ou incitatrice, pardon, je cherche le mot, à un certain nombre de polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Mais tout s'est déroulé avec beaucoup de dignité. Puis, vous voyez, je vais vous dire autre chose, pardon, mais je veux insister là-dessus. Il y a ce procès. La justice intervient maintenant dans la phase terminale, c'est la phase de jugement. Mais je vais vous dire également ce que l'on fait, parce que les auditeurs qui nous écoutent, ils se disent, mais qu'est-ce qui est fait pour lutter contre le terrorisme ? Qu'est-ce que fait le ministère de la Justice pour lutter contre le terrorisme ? Et moi, je souhaite qu'on s'y arrête un moment. Il y a d'abord des quartiers d'évaluation de la radicalisation. Il y en a 4, plus 1 qui ouvrira à la fin de l'année à Fresnes. Je veux vous dire, Monsieur Bourdin, quelque chose. Ça n'est pas seulement 4. C'est 4 parce que nous avons besoin de 4 quartiers. Et s'il en fallait 5, et s'il en fallait 6, le quoi qu'il en coûte, terminé, ça ne s'applique pas à la matière judiciaire, à la protection de nos citoyens. Ces quartiers d'évaluation de la radicalisation, ils ont été mis en place par mon administration, la direction de l'administration pénitentiaire, après une expertise très fine. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'un certain nombre de pays viennent voir ce que nous faisons. Je voudrais aller très vite là-dessus, mais je veux rassurer, non pas par de fausses promesses.
Je vais revenir sur la lutte contre le terrorisme, Éric Dupond-Moretti, mais j'ai une question quand même à vous poser. Est-ce qu'on ne risque pas, lors de ce procès, de passer du procès des terroristes, de la barbarie islamiste, au procès des services de sécurité, de renseignement, au procès de responsables politiques qui auraient pu faillir ? On ne risque pas, au cours de ce procès, de dévier de...
Mais je l'ai dit tout à l'heure, le lieu du procès est un lieu d'expression libre dans une grande démocratie et dans une justice telle que nous la concevons. Donc chacun, je vous l'ai dit tout à l'heure, dira ce qu'il a envie de dire.
Ces questions seront peut-être posées.
Et chacun retiendra ce qu'il veut retenir. Mais moi, je vous parlais de la réalité qui est la mienne, avec la direction de l'administration pénitentiaire. Il y a ces quartiers d'évaluation de la radicalisation. Il y a également les quartiers de prise en charge de la radicalisation. Il y en a 6. Un 7e va ouvrir prochainement à Rennes, réservé aux femmes. J'ai évoqué cela lorsque je suis allé à Rennes visiter l'établissement pénitentiaire. Il y a le renseignement pénitentiaire également, qui est une création de 2017 que nous avons renforcé de 100 personnels. Il y a encore, Monsieur Bourdin, le suivi des sortants de prison. Le suivi administratif et le suivi judiciaire, qui est une création récente du ministère de la Justice.
De nouveaux détenus condamnés pour terrorisme seront prochainement libérés.
Oui.
Combien y en a-t-il encore dans nos prisons ?
454 détenus pour terrorisme et 648 détenus radicalisés.
Détenus radicalisés, 648.
Oui, qui sont tous suivis. Et qui seront tous suivis.
Combien seront libérés dans les prochains mois ? On sait à peu près, on a une idée ?
Non, je ne peux pas vous dire précisément combien, mais voilà ce que nous avons comme détenus.
Aujourd'hui,
ceux-là ont vocation.
Ils sont tous suivis.
Ont vocation, bien sûr. Ils sont tous suivis dès leur entrée en prison.
Oui.
Le quartier d'évaluation de la radicalisation, c'est 16 semaines d'examen et ensuite des détentions adaptées à la dangerosité. Ensuite, le quartier de prise en charge de la radicalisation, c'est autre chose, a pour vocation de lutter naturellement contre les idées terroristes. Pardon de vous dire que là encore, ce sont des experts, c'est pluridisciplinaire, qui s'occupent de ces questions. Et à la sortie...
Voilà, une fois remis en liberté.
Une fois remis en liberté, nous avons créé, j'ai créé, avec les magistrats qui m'entourent, avec le Parlement, un texte qui permet de les suivre judiciairement. Ça, c'est nouveau. Et il y a, non pas alternativement, mais cumulativement à ces mesures, le suivi opéré, bien sûr, par les services de renseignement.
Pendant 5 ans, maximum.
Oui.
Pendant 5 ans, maximum. Avec, avec des mesures strictes.
Avec des mesures strictes.
Bracelet électronique.
Bien sûr.
Oui. On a d'ailleurs, puisque je parle de bracelet électronique, on en a suffisamment maintenant dans notre pays à disposition, parce que ça coûte très cher le bracelet électronique.
Ça coûte très cher, mais nous avons pourvu toutes les juridictions en bracelets, qu'il s'agisse des bracelets dont vous parlez ou qu'il s'agisse des bracelets anti-rapprochement qui permettent de lutter contre les violences intrafamiliales.
Est-il vrai que la dangerosité du détenu soupçonné de d'islamisme, la dangerosité sera évaluée et est évaluée au moins 3 mois avant la libération.
Elle est évaluée en permanence.
En permanence.
En permanence.
En permanence.
En permanence.
Bien. Le budget 2022 de la justice va-t-il augmenter ?
Le budget 2022 de la justice, ce n'est plus un secret maintenant, c'est plus 8%.
Plus 8%.
Oui, 660 millions d'euros de plus consacrés à la justice. Vous savez, je travaille avec les magistrats qui m'entourent, évidemment. Je travaille avec les magistrats de terrain. Je les rencontre régulièrement. Je sais leurs besoins. Et je dis qu'aujourd'hui, la justice a les moyens de fonctionner. Oui, bien sûr, tout n'est pas parfait, Monsieur Bourdin. Et si tout était parfait, on n'aurait plus besoin d'un ministre de la Justice. Mais lundi, par exemple, j'étais avec les chefs de cour et les chefs de juridiction. Et je pense que tout le monde s'accorde à dire que nous avons consenti des efforts colossaux. Ce sont les plus beaux budgets, je le mets au pluriel parce que il y a le budget 2021, il y a le budget à venir, sont les plus beaux budgets depuis plus de 25 ans. Grâce à ça, dans la traduction...
Mais qu'allez-vous faire de
pour
cet
les gens,
argent
alors, pour les gens qui nous écoutent, vous voyez, on a envoyé 2100 personnels supplémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on règle beaucoup plus vite toutes les infractions pénales qui n'étaient pas traitées. Ça veut dire qu'en matière civile, on réduit les délais. Ceux qui nous écoutent, ils attendent peut-être une décision de divorce, une décision de filiation, un contrat. Le civil, c'est le quotidien de nos compatriotes. Ces délais sont en cours de réduction, en cours de réduction notable. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent ? Ben, je vais vous le dire. On ouvre des tribunaux qui étaient fermés depuis 15 ans. Louviers, par exemple.
Dans l'Eure.
Louviers dans l'Eure. Les chefs de juridiction d'Evreux, ils ont réouvert un tribunal qui était fermé. Ben, allez en parler aux gens de Louviers. C'est ça la justice de proximité. Moi, c'est ce que j'appelle de mes voeux. On peut multiplier les exemples.
Oui.
Dans le Lot, chef de juridiction d'Agen, on a une audience foraine à Villeneuve-sur-Lot. Formidable. La justice, elle est au cœur de la cité. C'est notre pacte social.
Lot-et-Garonne, mais c'est pas grave. Éric
Dupond-Moretti. Ça vous fait plaisir et c'est exact. Donc je m'incline. Mais c'est pas ça que nos auditeurs vont retenir.
Exactement, exactement. Mais là, vous avez une réunion aujourd'hui autour du président de la République.
Oui.
Tout à l'heure.
Oui.
Tout à l'heure. Mmh. Et chaque ministre doit présenter, ça vous fait sourire, doit présenter plusieurs réformes avant l'élection présidentielle du printemps prochain. Quelles réformes allez-vous présenter ?
Les états généraux de la justice, par exemple, dont on va parler.
Oui.
Oui. Et puis, il y a des textes qui sont en cours, qui ne sont pas encore terminés. Il y a mon projet de loi pour la confiance.
Oui. Oui, qui passe au Sénat fin septembre.
Le Sénat va examiner ce texte tout à fait prochainement.
Oui.
C'est important. Il y a aussi le bilan de ce qui a été fait. C'est dur.
Et encore.
C'est
et
dur.
Encore.
Voyez,
non, mais le bilan, c'est une chose. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous allez faire.
Oui, et encore un certain nombre d'autres mesures. Et vous me permettrez, pardon, de les présenter
en priorité
au président de la République et à mes collègues ministres.
Qui vont changer la vie des Français
Mais moi, c'est mon but, vous savez.
C'est votre but.
C'est mon but, et j'y parviens.
Et dites-moi,
vous avez fait une petite rectification géographique, et vous avez raison.
Oui,
mais il y a également Montargis, par exemple.
Dans le Loiret.
Et bien voilà, là aussi, voyez-vous, nous avons fait des choses. Nous avons réouvert une juridiction qui était fermée. Ça permet aux gens d'avoir un accès direct à la justice. Monsieur Bourdin, autre chose. Ben, moi, je parle de choses concrètes.
Oui.
Et c'est mon honneur de ministre de la Justice. On a mis en place des points justice. Il y en a 2000 en France. Ça permet aux plus défavorisés d'aller chercher les renseignements initiaux dont ils ont besoin. Vous savez quel est le taux de satisfaction exprimé par nos compatriotes? C'est presque inquiétant d'ailleurs. 94%. Mais moi, je dis que ça, c'est du vrai boulot. C'est du boulot qui parle aux gens. C'est du boulot concret. C'est de la justice de proximité. Et avec les magistrats que je rencontre au quotidien, qui ont les mains dans le cambouis, on met en place ces choses. Je vous donne un dernier exemple, pardon, mais ces choses-là, si je ne les exprime pas, elles ne sont pas médiatiquement reprises sur le plan national. J'ai un procureur qui a eu l'idée d'un contrat avec la police municipale pour répondre en 10 jours aux infractions pénales de moindre gravité. Je veux évidemment lui rendre hommage, c'est le procureur de Thionville. Voilà ce que l'on fait au ministère de la Justice aussi.
Et ce que l'on pourrait faire partout. Éric Dupond-Moretti.
Et nous étendons tout ça, puisque j'ai créé un site, des bonnes pratiques permettant à tous les magistrats de ce pays d'avoir accès à ce que les autres font de mieux.
Bien, Éric Dupond-Moretti, quelques mots de politique. Vous souhaitez évidemment qu'Emmanuel Macron soit candidat et réélu. Vous prendrez part à la campagne pour défendre votre bilan et pour défendre la justice dans ce pays. Vous ne serez plus ministre en avril prochain, bien sûr, enfin peut-être, dans un prochain gouvernement, mais bon, ça change souvent. Est-ce que vous continuerez la politique ou vous reprendrez votre robe d'avocat?
Non, pardon, mais joker. Et j'ai dit il y a longtemps, je ne serai jamais ministre.
Oui,
vous
c'est
en souvenez.
Pour ça. C'est un peu pour ça que je vous pose la question.
Ça a été la première polémique, voilà, que l'on m'a opposée.
Oui.
Bon, je ne sais pas ce que je ferai de ma vie.
Avocat.
Je ne sais pas, Monsieur Bourdin, vous me réinviterez à ce moment-là.
Bon.
J'aurais réfléchi à la question. Pour le moment, j'ai pas le temps de me projeter dans mon avenir. Ce qui m'importe, c'est ce que l'on fait, et je vous jure que le travail ne manque pas.
Bien, provocation à la haine raciale, injure raciale. Éric Zemmour doit être jugé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Son procès pourrait être reporté. Est-ce qu'Éric Zemmour est raciste?
J'ai déjà eu l'occasion de vous dire qu'il n'était pas possible pour le garde des Sceaux, vous le savez, c'est une petite provoque, d'intervenir dans une affaire en cours ou de commenter la personnalité de tel ou tel justiciable à venir. Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous
Pourtant,
dise
Pourtant, ça vous arrive de commenter la personnalité
mais
de
je le faisais, tel. Je le faisais avec Éric liberté, je le faisais avec liberté lorsque
Vous l'avez qualifié de multirécidiviste de la haine et du racisme.
J'étais pas ministre de la Justice, et pardon, je suis ministre de la
vous
Justice.
Vous ne retirez rien.
Il y a un procès qui s'ouvre, vous n'obtiendrez pas, même par prétérition, une réponse de ma part, la justice fera ce qu'elle a à faire. En revanche, le politique Zemmour m'intéresse. Moi,
alors,
je veux savoir s'il est toujours comme vous, polémiste, commentateur...
Moi, je suis ni polémiste ni commentateur.
D'accord, pardon, c'est la deuxième erreur que vous rectifiez.
Non, pas du tout.
D'accord, ou s'il est devenu candidat à la présidence de la République. Pourquoi? Cette clarté, elle est indispensable. Et elle génère d'autres questions. Le président Larcher dit, moi, c'est pas mes valeurs. Et je salue le président Larcher et son courage. Éric Ciotti dit, moi, alors entre Emmanuel Macron et M. Zemmour, je choisis Zemmour. Très bien. Eh ben, au moins, on sait à quoi
ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi?
C'est son choix. Mais les électeurs doivent savoir à quoi s'en tenir. Il y a là un certain nombre de valeurs qui sont en cause. Monsieur Jacob a choisi le silence pour le moment. Moi, j'aimerais savoir ce que les Républicains pensent de, non pas de Monsieur Zemmour et de sa personnalité, mais de son programme, des valeurs qu'il véhicule. Ça m'intéresse beaucoup. Et ça intéresse, j'en suis certain, les électeurs de ce pays, les Français.
Quelques mots pour terminer. Marseille, encore une fois, dans la nuit de mort, deux règlements de compte. L'urgence est là, Éric Dupond-Moretti.
L'urgence est là et, vous savez, je n'ai pas attendu ni moi, ni le ministre de l'Intérieur, ni personne, pour prendre la mesure des difficultés rencontrées à Marseille. Dès le mois de mars, par exemple, j'ai demandé à mes services une inspection générale de la justice, une inspection de fonctionnement, pour savoir, en nombre de magistrats, comment il fallait régler le problème, s'il y avait un problème. 62 personnels supplémentaires ont été envoyés à Marseille en quelques mois, soit une augmentation hors magistrat de 16%. 11 magistrats nouveaux ont été envoyés. Et j'attends les conclusions du rapport général de la justice, rapport de fonctionnement, pour savoir si d'autres magistrats sont nécessaires. D'autres dispositions, elles regardent le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ont d'ores et déjà été prises. Donc cette urgence, nous ne la découvrons pas et nous essayons évidemment de permettre à la police, en ce qui concerne Gérald Darmanin, police-gendarmerie bien sûr, à la justice, en ce qui me concerne, de donner à ces grandes institutions le moyen de mieux travailler.
Merci Éric Dupond-Moretti, RMC, BFM TV, 8h55.